Voilà, je vais prendre je vais faire un partage d'écran, hein, si c'est OK pour vous. Donc, je vais vous. Alors, on va reprendre celui-là. Voilà, vous avez bien un texte, tout le monde? Ça fonctionne?
Oui, c'est bon.
Oui.
Voilà, d'accord, bon. Voilà, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous encore une fois. Ça faisait quelque temps, voilà, j'allais dire, je n'étais pas venu, mais je suis avec vous d'une autre façon. J'ai eu plaisir à voir quelques visages connus et je les salue en particulier. Je pense à Yongil, Minjing, voilà, que j'ai pas vu depuis longtemps. Et puis d'autres, bien sûr, que j'avais salué avant. Voilà, je donnerai quelques nouvelles de mon ministère, peut-être après l'enseignement. Je veux que nous gardions cet esprit de reconnaissance et de concentration aussi à travers les chants et les prières, et que nous poursuivions par une écoute attentive de ce que le Seigneur veut nous rappeler encore ce matin. J'introduis simplement par ce texte qui nous rappelle, et on l'a dit dans les chants et les prières, le contexte de ce week-end de Pentecôte, où il nous est rappelé ceci. Jude a distingué de l'Iscariot, bien sûr, dit à Jésus, Seigneur, alors attendez, je vais prendre ma Bible parce que j'ai quelque chose devant moi, voilà. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je ferai une allusion, bien sûr, à l'esprit dans un moment, mais si l'esprit nous a été donné, c'est aussi, comme dit Jésus, que nous ne soyons pas troublés, que nous gardions toujours cette connexion avec notre Père qui fait son habitation en nous. Et c'est cette connexion qui nous permet de rester vigilants, particulièrement dans ces temps que nous vivons. En mars 2020, l'année dernière, notre président Macron, en annonçant le premier confinement, vous vous en souvenez, a voulu rassurer à sa manière, particulièrement le monde économique, en parlant du quoi qu'il en coûte. Une expression qui va certainement revenir au centre des futurs débats dans les élections qui vont venir. Mais ça, c'est un autre débat. Et cette expression du quoi qu'il en coûte m'a fait réfléchir et je me suis dit, et si nous parlions en tant qu'enfants de Dieu du quoi qu'il arrive? Et en écrivant cela, en décrivant cela, je voudrais nous renvoyer à cette thématique du retour du Seigneur qui nous attendons. Et à ce titre, quoi qu'il arrive, il va venir. Quoi qu'il arrive, il va mettre en application la parole qu'il nous a donnée. Et si nous voulons, comme Jésus le demande, persévérer dans la foi, il est indispensable de ne jamais perdre de vue cette réalité de son retour et ce quoi qu'il arrive. Et je voudrais vous rappeler ce matin quelques promesses et quelques avertissements que donne l'Écriture derrière ce quoi qu'il arrive. Le premier avertissement ou la première parole de Jésus, elle sort du texte que j'ai lu tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, l'Écriture nous dit, et c'est Jésus qui dit, gardez-vous d'être troublés. L'ensemble des signes prophétiques laisse entrevoir, il faut là aussi être face à une évidence, un avenir difficile pour le monde. Et à ce titre, quand nous lisons des textes prophétiques sur ce qui doit arriver sur le monde, nous pourrions être troublés. Nous pourrions même être déstabilisés, voire même avoir peur. Mais Jésus nous dit de ne pas l'être. Pourquoi? Eh bien, parce que si tout ce que l'Écriture annonce doit arriver. Et quand je dis le si, c'est une façon de parler parce que je sais que cela va arriver, c'est qu'elles sont permises par le Seigneur et qu'elles entrent dans son plan, un plan qu'il a préétabli dès la fondation du monde. Et ça, ça nous dépasse, on ne peut pas l'expliquer. Et il faut l'accepter, bien sûr. Dieu est souverain. Et face aux signes que nous pouvons discerner au jour d'aujourd'hui, nous devons nous garder de deux écueils. Le premier écueil, c'est celui de l'indifférence à l'égard justement de ces signes qui les rendraient en fait nuls. Et les avertissements du Seigneur à ce titre, nuls aussi. On ne peut pas rester indifférent et on n'a pas à rester indifférent. Il nous faut lire l'Écriture pour justement voir ces signes, les emmagasiner dans notre esprit pour que le jour où ils vont apparaître sous nos yeux, lorsque nous verrons l'actualité et que nous écouterons l'actualité, nous nous dirons « Mais oui, ça, je l'ai lu, c'est en train de se passer. » Et le deuxième écueil, c'est se garder d'une sensibilité trop exagérée qui finalement nous ferait voir des signes là où il n'y en a pas ou chercher des signes là où il n'y en a pas. C'est pas facile d'avoir cet équilibre. Et pourtant, c'est bien là ce que nous devons avoir. Le texte tout à l'heure rappelé par notre frère de Timothée disait que c'était un esprit que nous avons reçu de force, d'amour et de sagesse. Eh bien, demandons que l'esprit de sagesse se révèle, s'implique dans notre vie pour que nous ayons cet équilibre face aux signes qui s'annoncent et que nous voyons aujourd'hui. Je pense à ce psaume qui nous dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, il ne redoute pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, plein de confiance en l'Éternel. » Quel beau psaume, n'est-ce pas? Et à la lumière de ce passage, nous sommes invités en tant qu'enfants de Dieu à ne pas nous inquiéter plus que du nécessaire, particulièrement face à cette pandémie qui sévit sur le monde depuis maintenant plus d'une année et qui semble peut-être être circonscrite quelque part par les vaccins, mais qui sait, demain ne nous appartient pas. Et qu'importe, gardons-nous d'être troublés. Nous obéissons bien sûr face à la pandémie à nos autorités. Nous prions aussi pour elles. Il est important de le faire parce que nous nous rendons compte que les décisions ne sont pas faciles à prendre. Nous combattons nous aussi ce virus en tant qu'enfants de Dieu comme les autres avec les moyens dont nous disposons, mais et j'insiste là-dessus, sans perdre de vue un seul instant que c'est d'abord en Dieu que nous plaçons notre confiance et non pas en l'homme et en ses capacités technologiques de pouvoir repousser ce que peut-être le Seigneur est en train d'amener sur la terre. Nous faisons confiance d'abord en l'Éternel, mais bien évidemment, nous agissons selon ce que nous pouvons faire en tant que témoins aussi de la gloire de notre Seigneur. Nous devons agir selon ce que l'autorité nous demande de faire, tant que cette autorité, bien évidemment, ne nous empêche pas de nous retrouver, de témoigner, de proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Donc, deuxièmement, quoi qu'il arrive, l'Écriture nous affirme « Sachez que le Fils de l'homme est proche. » Tirez instruction de la parabole du figuier, dit Jésus. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est même à la porte. J'en ai parlé, ces signes des temps sur lesquels je ne vais pas m'arrêter faute de temps, s'accomplissent, et il faut être réaliste à ce titre, à une vitesse grand V, et ce depuis quelques décennies maintenant. Jésus dira cette autre parole, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Oui, Jésus dit en fait que les enfants de Dieu seront capables de reconnaître l'époque et les signes prophétiques qui se multiplieront. Oh, ils ne comprendront pas forcément tout, c'est évident, mais ils pourront être sensibles, en fait, aux événements et aux signes. Pourquoi cela? Eh bien, parce que finalement, nous avons quelque chose de plus que nos contemporains qui sont toujours loin de Dieu. Ce que nous avons, c'est justement l'Esprit de Dieu. La Pentecôte, Jésus l'a rappelé, il viendra en nous. Et c'est parce que nous avons cet Esprit de Dieu que nous sommes sensibilisés aux choses de Dieu, aux choses de l'Esprit. Et que la parole de Dieu devient pour nous quelque chose de logique et d'évident. Et l'Esprit permet de faire, si vous voulez, un petit peu comme une traduction entre, entre l'actualité et la parole de Dieu. Elle nous permet de discerner ce qui se passe. Et là, nous avons un avantage extraordinaire par rapport au monde qui, lui, n'a pas cet Esprit. Alors, ces signes sont là, bien sûr. Et je suis tombé récemment sur une lecture, et en particulier sur cette citation qui m'a frappé dans cette lecture que je vous livre ici, qui vient de ce livre « La COVID-19, la grande réinitialisation » d'un certain Klaus Schwab, que je ne connais pas. Mais il a dit ceci, ou il écrit ceci, entre autres, « La normalité la crise est brisée et rien ne nous y ramènera. » Alors, ce n'est pas une parole prophétique, on est d'accord, c'est une citation, donc il faut la prendre avec toute réserve. Mais ça m'a frappé. « Car la pandémie du coronavirus marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale. Certains analystes parlent d'une bifurcation majeure. D'autres évoquent une crise profonde aux proportions bibliques. » C'est ce qui m'a interpellé. « Mais la substance reste la même. » Le monde tel que nous le connaissions pendant les premiers mois de 2020 n'est plus dissous dans le contexte de la pandémie. Nous allons faire face à des changements radicaux d'une telle importance que certains experts parlent d'ère avant coronavirus et après coronavirus. Alors, je le répète, ce n'est pas une parole de la Bible, c'est une pensée d'une personne qui vaut ce qu'elle vaut. Mais cela montre qu'il se passe des choses et que le monde dans lequel nous vivons est en train d'évoluer, et peut-être qu'effectivement cette pandémie le fait évoluer de façon exponentielle, ce qui va accroître davantage encore peut-être cette impression, mais ce n'est pas simplement qu'une impression, c'est une réalité, que les choses vont vite et que peut-être nous arrivons à ces tout derniers temps de la fin. Car la question que l'on peut se poser, de quoi nous approchons-nous finalement, lorsque Jésus dit « Votre délivrance approche », qu'est-on en droit, en tant qu'enfant de Dieu, au regard de l'Écriture, d'attendre aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons nous interroger là-dessus? Je crois que oui. Et il y a particulièrement un texte qui, pour moi en tout cas, m'encourage énormément, c'est celui de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, qui dit ceci « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous, exhortez-vous, notre traduction dira, les uns les autres par ces paroles. Lorsque l'apôtre Paul écrit ce texte en particulier, il exprime une révélation qu'il a reçue, dont il ne parlera plus, ou qu'une seule fois, et assez timidement. Mais il dit cela aux Thessaloniciens, pourquoi ? Parce que les chrétiens de Thessalonique étaient convaincus, comme d'ailleurs beaucoup de chrétiens fraîchement convertis, que le retour de Jésus allait se passer de leur vivant. Et ils s'appuyaient, bien sûr, et ils avaient raison, sur les promesses de Jésus qui avait dit « Je reviendrai à ses disciples ». Donc les disciples l'ont perpétué, cette promesse. Et ils pensaient que ce serait rapide. Et donc ceux qui meurent les disciples, normalement, inquiètent, ou en tout cas, les vivants sont inquiets de ceux qui meurent, en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer pour eux, puisque Jésus n'est pas revenu? Ils ne seront pas là quand il va revenir. Et c'est là que l'apôtre Paul, inspiré, dit cette révélation qu'il a reçue, probablement lorsqu'il fut transporté dans le paradis, lorsqu'il le raconte aux Corinthiens, où il reçoit vraiment des pièces du puzzle qu'il peut mettre lui-même en place dans ce qu'il connaît de l'Écriture, Ancien Testament, et en particulier la Nouvelle Alliance qu'il va lui-même façonner par les révélations. Et ça, c'est une révélation extraordinaire. Alors, on comprend pourquoi Jésus dit « Redressez-vous, levez-vous ou levez vos têtes, votre délivrance approche. » Et l'explication que donne Paul aux Thessaloniciens de cet enlèvement de l'Église dans les airs pourrait facilement être aujourd'hui un film d'un certain Spielberg, n'est-ce pas, qui pourrait être bien inspiré d'après ce texte. Mais c'est un texte qui est tellement étonnant qu'on pourrait presque se dire, mais non, c'est pas possible, c'est imaginaire tout cela. Comment on peut aller dans les airs et certains même vont sourire de ce texte-là. Mais rappelons-nous qu'il y a deux exemples dans l'Écriture qui permettent de saisir cette réalité dont Paul parle de façon littérale. Ce sont ceux d'Enoch et d'Élie qui ont été enlevés vivants. Il est dit d'Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'avait pris. Et où l'avait-il pris? Dans le ciel. Il était parti, enlevé. Mais Jésus lui-même a aussi parlé de cet enlèvement. Lorsqu'il dit, je vous le dis en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ici, le Seigneur nous explique une chose évidente, que l'enlèvement aura lieu à la fois la nuit pour certains, il parle d'un lit, et à la fois du jour pour d'autres, puisqu'il parle de personnes qui travaillent, qui sont en activité. Eh bien, c'est là aussi logique, puisque nous le savons, la terre se trouve en partie dans l'ombre du soleil et en partie dans le soleil, une partie de nuit et une partie de jour. C'est donc au même moment que cet enlèvement aura lieu, et que les enfants de Dieu, où qu'ils soient sur la terre, seront ensemble réunis dans les airs à la rencontre du Seigneur, avec, comme dit Paul aux Thessaloniciens, les ressuscités avant qui auront précédé ceux qui seront restés en vie. Alors, je voudrais quand même préciser que l'Église ou l'épouse qui sera enlevée ce moment-là ne sera pas malheureusement celle que l'on peut voir dans les bâtiments religieux, composés d'une multitude qui ont, peut-être pour certains, poussé simplement une porte, par confort, peut-être par opportunisme, curiosité, se sont installés pour découvrir et profiter d'une culture religieuse ou apaiser leur conscience. Non, l'épouse qui sera enlevée sera celle qui est composée d'enfants de Dieu passés par la nouvelle naissance, enfants de Dieu passés par la porte en forme d'une croix, celle-là même qui nous donne de réaliser qui est Jésus pour moi, qui est ce qu'il a fait pour moi. Et cela a été rappelé tout à l'heure à travers les textes et même dans les chants. Il est cet agneau de Dieu qui est mort pour notre péché. Voilà ce que signifie la nouvelle naissance. C'est réalisé, comme Jésus l'a dit à Nicodème, à moins de naître de nouveau, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et pour naître de nouveau, nous le savons, il faut se laisser baigner dans le sang de Jésus quelque part, c'est-à-dire être conscient que nous sommes pécheurs et que Jésus nous a pardonnés. Ce n'est pas entrer dans un lieu, dans une église en pierre, c'est entrer dans le corps même de Christ, et laisser Christ entrer dans notre corps lui-même par l'Esprit. Naître d'eau, d'une part, c'est être lavé de ses péchés, lui demander pardon, et ainsi l'Esprit de Dieu, comme dit Jésus, entre en nous. C'est ce que nous rappelons en ce week-end encore de Pâques. Et c'est l'Esprit de Dieu qui, une fois en nous, nous fait réaliser que nous sommes ses enfants et que nous sommes héritiers des promesses qu'il nous fait. L'enlèvement est donc destiné uniquement à l'Église, à l'épouse, et il y a un texte de l'Écriture qui dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous pouvons nous connaître entre nous, bien sûr. Nous témoignons par les fruits de l'Esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est évident. Mais nous n'avons pas à juger forcément telle ou telle personne en fonction de telle ou telle situation. Dieu connaît, lui, ceux qui lui appartiennent. Mais bien évidemment, je le répète, notre témoignage, et Jésus demande d'être la lumière, montre bien, est une preuve, s'il en fallait une, que l'Esprit nous a touchés aussi. Et nous le voyons autour de nous, nous nous connaissons aussi les uns les autres. Donc l'enlèvement peut venir d'un instant à l'autre, et c'est certainement à cela que Jésus fait allusion lorsqu'il dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure, pas même le Fils, mais le Père seul. C'est pourquoi nous pouvons affirmer et nous pouvons dire, quoi qu'il arrive, sachez que le Fils de l'homme est proche. Alors, je fais une petite remarque. Si le Seigneur a voulu cacher à ses disciples le moment de cet enlèvement et de ce retour, c'est bien pour les motiver à rester toujours vigilants. Imaginons un instant, si Jésus avait dit à ses disciples de la première heure qu'il s'écoulerait au moins 20 siècles avant ce grand événement. Que se serait-il passé? Bon, difficile à dire, bien sûr. Mais l'Église naissante ne se serait-elle pas finalement endormie encore plus vite qu'elle ne l'a fait, en pensant qu'elle aurait encore tant à attendre? Nous avons une telle tendance à l'impatience, n'est-ce pas? Même à la paresse ou à l'inertie, que nous avons toujours besoin d'être en haleine. Et si aujourd'hui, Jésus nous disait par l'Esprit, de toute façon, il y en a encore pour 20 siècles, comment réagirions-nous, n'est-ce pas, au jour d'aujourd'hui? Quiconque ne veille plus a déjà pratiquement succombé à la tentation, parce qu'il n'est plus dans cette relation d'intimité avec le Seigneur. Quand Jésus dit « veillez et priez », la veille nous pousse à réfléchir, nous pousse à regarder, mais en même temps nous encourage à prier pour être encore plus attentif. Et plus je suis dans la prière, plus je suis dans la veille, dans une veille sage, une veille dirigée par l'Esprit de Dieu. « Heureux, dira la parole, les serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant. » Alors dans l'Écriture, oui, nous discernons l'intention de Dieu depuis tous ces siècles passés, qui a souhaité laisser chaque génération dans une position où elle pouvait sentir qu'elle serait la dernière, sans pourtant être capable de définir le moment précis. La réaction que cela produit est vue quelque part chez l'apôtre Paul. On le voit, Paul, dans ses écrits, montre qu'il vivait sa vie entière avec l'attitude d'attente face au retour de Christ. Il parlait à sa génération comme si les choses allaient perdurer. Et pourtant, nulle part, il affirme que la fin arrivera pendant la durée de sa vie. On peut dire que Paul a vécu comme si Christ devait revenir pendant sa génération, mais il travaillait, il planifiait comme si le monde allait continuer pendant longtemps. Et il a bien fait, n'est-ce pas? S'il s'était découragé, il n'aurait pas écrit toutes les épîtres que nous avons, il aurait attendu sagement et béatement que Jésus revienne, et nous n'aurions pas les écrits d'aujourd'hui. C'est Luther, le réformateur, qui un jour a dit « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, eh bien je planterais quand même un pommier. » Voilà des certitudes, n'est-ce pas? Et en même temps, cet encouragement pour nous aujourd'hui à poursuivre le combat, à poursuivre le travail que le Seigneur nous demande de faire, parce qu'il y a encore des âmes à sauver, nous devons le croire et nous devons tout faire pour laisser l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans ses futurs cœurs et dans ses futures enfant de Dieu. Et puis, une dernière pensée que j'aimerais développer, quoi qu'il arrive, nous dit l'Écriture, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Je pense que la pandémie de la COVID-19 semble bien enraciner chaque jour davantage la puissance d'Internet, la rend indispensable ou le rend indispensable dans tous les domaines de notre vie. Les confinements mondiaux ont montré combien Internet était et devenait indispensable, que ce soit par le télétravail, les rencontres via les réseaux sociaux, les achats, les rencontres que nous faisons en ce moment en direct, n'est-ce pas, via Internet, alors que les contacts doivent disparaître, entre guillemets, ou en tout cas devaient et encore être un peu distants pour lutter contre la pandémie, eh bien c'est le web qui a suppléé allègrement et sans complexe à ce manque. Nous avons été heureux, nous sommes encore ce matin heureux et reconnaissants de pouvoir utiliser ce moyen pour nous retrouver, pour faire ces cultes en Zoom. Mais l'enfant de Dieu, les églises, doivent faire très attention, car beaucoup de chrétiens mal affermis, influençables, cherchant plus à voir et à entendre du spectaculaire pour se rassurer, se laissent piéger par les faux docteurs via le web et le net. Et à ce titre, cette pandémie mondiale a été, je le crois, l'occasion d'ouvrir un peu plus encore la boîte de Pandore via ce net et cette toile d'araignée à toutes les dérives et les séductions que compte le monde du religieux. D'où cette expression « examinez toute chose et retenez ce qui est bon ». Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons l'exemple de ces chrétiens de la ville de Bérée qui, lorsqu'ils entendaient l'apôtre Paul parler, examinaient dans les Écritures si ce que l'on disait était juste et était vrai. Mais quand on réalise un petit peu ce qu'ils faisaient, quand il dit qu'ils examinaient les Écritures, qu'est-ce qu'ils examinaient? Ce n'est pas le Nouveau Testament, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Paul était en train de rédiger justement ses lettres. Elles n'étaient pas encore compilées ensemble. Non, ils examinaient l'Ancienne Alliance, ils examinaient les livres prophétiques, la Torah, la loi, n'est-ce pas? Et parce que c'était des Juifs qui se convertissaient, bien sûr, au christianisme, mais ils connaissaient ces textes. Et ils faisaient le rapprochement avec ce qu'ils entendaient en leur parlant du Jésus, du Messie, entre autres, n'est-ce pas? Et ce qui était dans l'Ancienne Alliance. Nous avons, nous, aujourd'hui, bien sûr, de quoi être beaucoup mieux éclairés, je dirais même, que ces gens de Béret, puisque nous avons deux choses. Nous avons l'Esprit qui est entré en nous, même si l'Esprit est entré en eux aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Donc ça, nous sommes identiques à ce qu'ils étaient. Mais nous avons le Nouveau Testament, nous avons les écrits de l'apôtre Paul et de Pierre et de Jean, etc. Ce qui veut dire que pour examiner toute chose, il est une évidence. C'est qu'il faut avoir entré dans notre esprit, dans notre cerveau, les informations qui permettront d'examiner. C'est une évidence. Et dans le monde de l'informatique, je ne vous apprends rien. Si vous entrez à un ordinateur, imaginons cette équation ou cette donnée 2 plus 2 égale 3, eh bien quand vous allez taper 2 plus 2, il va vous donner 3. Il ne va pas, sauf si vous mettez un correctif en plus, il ne va pas vous donner 4. Donc l'ordinateur rend ce qu'on lui a entré. Il en est exactement la même chose pour notre esprit. Il sortira ce qu'il est entré. Quand le premier texte que j'ai lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean au chapitre 14, que dit Jésus? Il dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Les disciples, bien évidemment, aux côtés de Jésus, n'avaient pas de notes, n'avaient pas de calepin et n'écrivaient pas tout ce que Jésus disait. Ils le suivaient. Ils retenaient. Et forcément, ils n'ont pas tout retenu sur le coup. Mais quand Jésus est parti, eh bien, c'est l'Esprit qui a permis, parce qu'il est entré dans les disciples, à ces derniers, de se rappeler de ce que Jésus avait dit. Mais ils l'avaient entré dans leur cerveau, par le regard, par les oreilles, n'est-ce pas? C'était en eux. Et l'Esprit a ressorti, a remotivé tout ce qu'ils avaient entendu, et ils l'ont mis par écrit, même s'ils allaient à droite et à gauche, peut-être prendre des témoignages des uns et des autres. Donc, nous faisons la même chose. En clair, ce que je veux dire, c'est que si nous ne maîtrisons pas et ne lisons pas la parole de Dieu régulièrement, nous ne pouvons pas y entrer les données dans notre esprit. Il faut donc, et il est impératif, de pouvoir lire l'Écriture au jour d'aujourd'hui et encore avec gourmandise. Moi, j'aime ce terme-là. Soyons gourmands de l'Écriture, parce que c'est elle et ses informations qui nous permettront de discerner les signes demain et aujourd'hui qui se réalisent sous nos yeux. Je voudrais vous donner cette image. Imaginez que vous êtes dans un aéroport. Et vous savez, dans un aéroport, il y a la tour de contrôle. Dans la tour de contrôle, il y a des hommes et des femmes qui sont qualifiés et qui s'appellent les aiguilleurs du ciel. Ces hommes et ces femmes sont qualifiés pour donner autorisation ou pas à un avion qui arrive dans l'espace aérien de la tour de contrôle d'atterrir ou de ne pas atterrir et de leur imposer le numéro de piste. Eh bien, spiritualisons les choses. Lorsqu'il arrive dans notre espace aérien spirituel des données, ces données, elles viennent soit de notre ouïe, soit de nos yeux, et via le net, il arrive énormément d'informations. Eh bien, qu'est-ce qui va permettre à ces informations ou qui va donner l'autorisation à ces informations d'atterrir dans notre cerveau d'une part et d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire dans notre intelligence et dans notre cœur? Eh bien, ce sont les aiguilleurs du ciel, et pour moi, les aiguilleurs du ciel, c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, dit Jésus, mais moi je vous dis, quand j'entends une information, est-ce qu'elle va passer par ce filtre de l'Écriture pour que je puisse discerner si elle est juste ou si elle est fausse? Si elle est juste, je l'accepte et je vis avec. Si elle est fausse, je dois la rejeter et la renvoyer dans l'espace, n'est-ce pas, pour qu'elle ne vienne plus m'importuner. Voilà ce qui doit être fait quand Jésus dit « examinez toutes choses et retenez ce qui est bon », mais pour cela, entrons les bonnes informations. Je vais un petit peu plus loin parce que j'ai parlé de l'Internet. Je crois que dans un texte, nous pouvons y discerner ce signe. L'apôtre Paul écrit… Ah, j'ai mon PowerPoint qui ne fonctionne plus. Excusez-moi. Zut, pourquoi mon PowerPoint ne marche plus? Voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et Paul développe, ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents, etc. Ça, on le voit aussi aujourd'hui, c'est clair. Mais en particulier, focalisons l'attention sur ce qui suit. Ils auront, donc les gens du monde, l'apparence de la piété, certains en tout cas, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, ou de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, littéralement des femmelettes, chargés de péché, entraînés par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà un texte qui me paraît aujourd'hui montrer ce qui se passe littéralement via l'Internet. Ils s'introduisent dans les maisons. Mes amis, Internet s'introduit dans les maisons. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller n'importe où dans le monde et recevoir des informations. Et dans le monde religieux, il y a énormément d'informations. Et ceux qui s'introduisent dans les maisons, qui sont des faux docteurs, eh bien, profitent de la crédulité de ceux qui sont faibles, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas nourris de l'Écriture, qui n'ont pas les bonnes données, pour les diriger vers un chemin qui n'est pas celui de la foi en Jésus, qui n'est pas celui de la porte en forme de croix que nous avons vue tout à l'heure. C'est un chemin de perdition. Et c'est là que nous voyons que Satan utilisera ce moyen, alors c'est pour ça qu'il faut y faire attention, pour détourner les hommes de la vérité. Et regardez ce qui se passe dans le texte. Ils apprennent, ils connaissent des choses, parce que, bien sûr, il y a beaucoup de connaissances qui sont là, beaucoup d'informations qui sont données sur le net, mais en fait, ils ne connaissent pas ce qu'ils cherchent dans le fond de leur cœur, c'est-à-dire la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, que par moi. Oui, les faux docteurs annihilent un peu le christianisme, le rendent inoffensif, le rendent sentimental, le rendent humaniste. Et c'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qui amène quelque part à la confusion. Et donc les gens se suffisent de ces choses-là, mais ne vont pas aux profondeurs, ne sont pas repris dans leur conscience, parce que l'Évangile doit nous reprendre les uns les autres et doit nous humilier devant la puissance et l'amour de Jésus-Christ. Notre texte nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, vous voyez, c'est l'autre texte qui parle de cela de Paul, « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apostasie dont parle ici l'apôtre Paul prend sa source dans le mépris de l'Écriture et de la parole de Dieu, qui n'est plus l'autorité absolue, et qui engendre alors une anarchie en matière religieuse. Cette apostasie, mes amis, nous la voyons aujourd'hui à l'œuvre, car l'Écriture devient de plus en plus diluée et de moins en moins autorité, et attention, même parfois au sein de l'Église de Jésus-Christ. C'est donc une attaque spirituelle de Satan, le père du mensonge, qui, comme toujours, met en doute la révélation de l'Écriture lorsqu'il avait dit déjà à Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit ? Et notre époque se caractérise par ce dérèglement complet dans le domaine de la foi chrétienne. Le web charriant des milliers d'informations mensongères preuve que l'ennemi sent sa fin toute proche et utilise ce fabuleux moyen d'expression, certes, pour entrer dans les maisons et séduire ce que nous avons appelé des femmelettes. Oui, Jésus dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire avant même l'enlèvement de l'Église. Et l'apostasie, je crois, est bien là aujourd'hui, et elle se remarque à travers en particulier ces faux docteurs, annoncés et dénoncés par l'apôtre Paul dans un autre passage que je vous livre. Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs ou d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est peut-être ce que nous voyons, malheureusement, aujourd'hui. Ces faux docteurs prêchent, je l'ai dit, cet évangile dilué dans la tradition, dans la compromission. Ils font plaisir, se font plaisir, mais ne sont pas des véritables serviteurs de Dieu. Généralement, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on peut les reconnaître, ils évitent de parler du péché, ils évitent de parler de la repentance, ils évitent de parler de la nouvelle naissance, du ciel, de l'enfer et même du retour de Jésus. Ils encouragent à focaliser l'attention sur la terre et plus aux réalités et plus aux réalités célestes. Oui, c'est ce que nous pouvons voir d'ailleurs dans des faux évangiles comme celui de la prospérité dont nous avons entendu parler. Le dominionnisme qui vient des États-Unis actuellement, et vous pouvez aussi vous renseigner là-dessus et vous verrez que c'est de la fausse prophétie qui sont en train d'inonder notre Europe. Mes amis, l'Écriture nous exhorte donc à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. À la lumière du prophète Jérémie qui déjà en son temps, de la part de Dieu bien sûr, avertissait Israël, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Ils vous entraînent dans l'illusion. Ils transmettent les visions de leurs inventions et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils répètent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. À tous ceux qui persévèrent dans les penchants de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Mes amis, Quand les hommes diront paix, paix et sûreté, dit l'Écriture, une ruine soudaine les surprendra. Les faux docteurs sont plutôt dans cet esprit de faire du bien, de caresser, comme on dit, un sens du poil, n'est-ce pas? Mais ils n'avertissent pas des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la terre. Ce n'est pas un discours facile à dire, bien sûr, que les choses vont être difficiles, mais c'est ce que l'Écriture nous demande de dire, parce que c'est ce que l'Écriture dit et affirme. Alors, pour terminer, nous pourrions encore dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais j'aimerais que nous n'oublions pas que le quoi qu'il en coûte fait aussi partie d'une réalité ici-bas, avant même l'enlèvement. Si quelqu'un veut venir après moi, a dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'évangile de Luc dit qu'il renonce à lui-même. L'enfant de Dieu a été rendu capable par le Saint-Esprit qui habite en lui de réaliser et comprendre que tout ce qu'il a ou n'a pas est une grâce du Seigneur. L'enfant de Dieu sait placer son trésor au bon endroit. Là où est ton trésor, a dit Jésus, là est ton cœur. Ceci dit, dans ce monde où le climat ambiant est celui de l'humanisme et de la rébellion contre Dieu, du chacun pour soi, de l'égoïsme, de l'ambition personnelle, du règne de Mammon, renoncer à soi-même et de fait à tout ce que l'on peut avoir est bel et bien l'un des combats les plus difficiles que nous ayons à mener aujourd'hui. Je le crois. Car il implique automatiquement des changements de comportement, des prises de position qui ne seront pas comprises par nos contemporains, même par nos familles parfois, des attitudes qui vont s'opposer à l'esprit de mensonge de ce monde pour rendre gloire à cet esprit de vérité. Car l'esprit de vérité que le monde, dit Jésus, ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Oui, Jésus parle du Saint-Esprit qui a été déversé dans le cœur des disciples. Nous en sommes inondés, nous l'avons rappelé. C'est lui qui est le moteur au renoncement dans la mesure où l'enfant de Dieu décide de suivre et de ressembler à Jésus. Mais pour renoncer à soi et permettre cette croissance de Christ en nous, il nous faut vivre vraiment dans cet esprit de la vérité, dans ce monde du mensonge. Et ça, ça va trancher. L'apôtre Jean écrivait à Gaius, de la part de l'ancien, que j'aime dans la vérité, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Oui, de la manière dont tu marches dans la vérité. Vous savez, David a écrit au psaume 51, verset 8, cette parole, « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » Et David avait dit cela après avoir caché pendant des jours, peut-être des semaines, le péché qu'il venait de consommer, à savoir l'adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari. Et il a fallu que le prophète Nathan vienne le piéger pour que David réalise ce qu'il avait fait. Et quand il confesse, qu'il se repent, enfin, il peut dire à Dieu, « Oui, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » David avait compris qu'au beau milieu de ce zèle dévorant qu'il avait pour la justice en tant que roi d'Israël, il avait un cœur injuste. C'est pourquoi sa repentance fut extrêmement profonde. Et nous la lisons aussi au psaume 32. Mais à l'instar de David, nous pouvons dire encore que renoncer à soi-même, c'est renoncer à jouer un personnage, c'est renoncer à toute forme d'hypocrisie et de mensonge, que ce soit dans les mots que nous prononçons, que ce soit dans les comportements que nous avons. Et ce renoncement-là, il coûte. Ce renoncement, selon Jésus, est donc d'abord un état d'esprit duquel découlent des actions qui vont devenir la manifestation de notre confiance et de notre dépendance à Jésus seul, comme celle de se détacher, bien sûr, du bien matériel. Cet état d'esprit ne peut que venir d'un cœur purifié et disposé à honorer Jésus. Tout en étant dans le renoncement à soi, le disciple de Jésus reste une personne digne, dont les actes et les propos font leur maître. Mais le disciple pourra vivre naturellement ce renoncement que dans la mesure où il comprend et met en pratique ce que Jésus a dit. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et la suite du texte que j'ai cité tout à l'heure, du renoncement à soi, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Mes amis, la question est posée encore aujourd'hui. Elle est posée à quelqu'un peut-être parmi nous ce matin qui nous écoute là. Et je peux et j'ai envie de lui poser cette question, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à monter dans le ciel si aujourd'hui Jésus le décidait? Est-ce que tu es prêt parce que tu as fait la paix avec Jésus-Christ? Et ce, quoi qu'il arrive. Voilà la question, me semble-t-il, vaut la peine encore d'être posée. Réfléchissons bien à cela. Et je vous invite simplement à faire un bref moment de silence. Je vais terminer ensuite par la prière. Oui, es-tu prêt? C'est la question que Jésus te pose encore ce matin. Es-tu prêt à remettre ta vie à ce Seigneur et Sauveur si tu ne l'as pas encore fait? Es-tu prêt à renoncer à toi-même si tu te rends compte que tu ne l'as pas fait complètement aujourd'hui? Ou si tu te rends compte que tu t'es laissé gagner par peut-être cet esprit de ce monde? Es-tu prêt? Es-tu prêt à aller encore plus loin avec Jésus-Christ? Seigneur, c'est la question que tu veux encore nous poser. Quoi qu'il arrive, nous pouvons être, si nous sommes à toi, dans la paix, dans la confiance, dans l'espérance, que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Oh, quel privilège, Seigneur Jésus, d'avoir et de rappeler ce matin ces promesses. Et en même temps, Seigneur, tu nous mets en garde contre cet esprit malin, oh, qui sait bien manipuler. Et à travers aujourd'hui cette technologie d'Internet, combien, Seigneur, la fragilité des âmes est encore plus vulnérable. Combien les attaques peuvent être plus sournoises, parce que jusque dans nos propres maisons, sans même nous déplacer, l'ennemi peut entrer. Mais la gloire de Dieu peut aussi entrer dans nos maisons, parce que à travers aussi Internet, Seigneur, et nous le faisons aujourd'hui, nous pouvons te glorifier, nous pouvons lire ta parole, nous pouvons écouter tes serviteurs, nous pouvons être encouragés. Merci Seigneur de ce moyen que tu nous donnes aujourd'hui. Mais, ô Jésus, donne-nous cette sagesse par l'Esprit de bien discerner, de bien comprendre qui est derrière et qui agit. Oui Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu ne troubles pas tes enfants, nous l'avons dit tout à l'heure, tu les rends sensibles à ton esprit et ils peuvent être ainsi dans la paix. Oh, viens bientôt, Seigneur Jésus, nous te le demandons. Et si encore ce matin, quelqu'un désire venir à toi, eh bien qu'il ouvre son cœur maintenant à la grâce et à l'amour de Jésus, qui lui dit aujourd'hui, je t'aime et je veux te pardonner. Je suis prêt à te prendre dans mes bras, mais ouvre-moi ton cœur, s'il te plaît. Ouvre-moi ton cœur. Oh, ne te prive pas aujourd'hui. De ce salut qui frappe à ta porte. Ô Seigneur, que ton nom soit béni, en Jésus-Christ. Amen. Alors, voilà, je veux juste encore donner quelques nouvelles de mon ministère après avoir partagé cette parole et simplement profiter donc de cette occasion. Thierry m'a dit d'en parler un tout petit peu. Donc, Voilà, je voudrais simplement vous présenter mon épouse, Christine. Certains la connaissent, qui, voilà, sans elle, bien sûr, le ministère aurait un peu de mal à se mettre en œuvre. Je voudrais vous rappeler que par la grâce de Dieu, le mois de juillet, je vais boucler les 20 années de ministère itinérant que le Seigneur a permis que j'exerce. Je termine aussi ces 33 années de ministère à plein temps pour le Seigneur. Voilà, je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait et reconnaissant aussi aux frères et sœurs qui vous en avez fait partie, vous en faites encore partie, qui m'encouragent dans ce service. Juste une information peut-être, mis à part les déplacements que je fais ou que je vais recommencer à faire, Dieu voulant, j'apporte bien sûr en tant qu'itinérant la parole partout en France. Les week-ends, j'ai réalisé en 2019, juste avant le Covid, une maquette à l'échelle du tabernacle que vous voyez en photo. Et à travers cette maquette du tabernacle, j'expose des enseignements bibliques sur la christologie, sur la grâce qui nous a été révélée, et en même temps, en expliquant un petit peu ce qui se passait au temps de l'Ancienne Alliance, de Moïse dans le désert en particulier. La grâce qui a été révélée, si vous voulez, voilà, ça m'a frappé dans cette thématique. Voilà, donc j'espère peut-être qu'un jour on aura l'occasion de partager ensemble, peut-être un week-end d'église, je peux venir présenter cette maquette et vous en parler. Voilà, vous pouvez aussi aller sur mon site internet pour lire les nouvelles hein, que je donne régulièrement, les agendas, etc. Et recevoir en tout cas ma lettre de nouvelles. Si vous voulez m'envoyer votre mail, n'hésitez pas. Je peux vous l'envoyer aussi par Internet ou vous pouvez la lire sur le site directement. Voilà, merci beaucoup pour vos prières, merci pour vos encouragements et l'occasion que vous m'avez donnée de pouvoir voilà, partager cet enseignement que j'ai à cœur au jour d'aujourd'hui dans ce monde particulier. Voilà, je vais laisser la place maintenant à nos amis, arrêter le partage d'écran.